RMC. Grand Plateau. Johan Bredov.
Salut à tous, le festin s'est terminé pour Tadej Pogacar, le Slovène a englouti cette saison 2024 de l'entrée avec les Strade Bianche qu'il avait déjà avalé d'une bouchée pour conclure avec son dessert préféré, le Tour de Lombardie, où il n'a laissé aucune miette à ses adversaires, dont Remco Evenepoel, deuxième relégué à plus de 3 minutes sur la ligne. C'est donc un quatrième succès de rang dans la classique des feuilles mortes pour le champion du monde qui a égalé Fausto Coppi, ligne de plus dans le livre des records qui n'a cessé de prendre en volume depuis mars. 25 victoires cette saison, 2 grands tours, 2 monuments, un maillot arc-en-ciel, 2 classiques. Seuls Milan-San Remo et le Grand Prix du Québec lui ont échappé. Dans Grand Plateau, on va revenir sur cette saison dantesque, une des plus grandes de l'histoire pour un coureur. Plus personne ne semble pouvoir rivaliser avec lui et à seulement 26 ans, on peut se dire qu'il peut encore progresser. Va-t-on revivre la même saison en 2025? Que vont faire ses adversaires pour essayer de le contrer? Pour répondre à tout cela, on a pris les meilleurs. Jérôme Pineau est là. Salut mon Jérôme.
Salut les garçons. Ouais. Salut à tous.
Il y a un petit peu de bruit derrière toi, mon Jérôme. Faut dire que là, t'es bien. T'as décidé de quitter la grisaille française pour aller au soleil. Hein.
Exactement. J'ai décidé d'aller prendre un peu de soleil du côté du Maroc, de voilà. Marrakech. Exactement.
Très bien, mon Jérôme. Lui, il a quitté la grisaille de la Lombardie parce qu'il faisait pas très beau le lac de Côme.
Oh, on a vu Pierre,
Ouais, c'est écoute, vrai qu'on a vu Pierre aller déborder. Arnaud Souquet là. Salut Arnaud.
Alors, il a débordé, mais il a débordé avant que j'arrive. Donc, moi, ça va. Il faisait soleil. Franchement, j'ai pas vu une goutte de pluie. Donc, c'était fort sympathique, les abords du lac de Côme.
Ouais, c'est vrai que c'était magnifique. On s'est régalé sur les images en regardant et en t'écoutant aussi. Pierre Cotchet est avec nous, évidemment. Salut Pierre.
Salut Johan.
Tu t'es régalé sur le Tour de Lombardie?
Pas vraiment.
Ouais, c'est ça, on va en parler de cette course où Tadej Pogacar a été monstrueux. On se replonge justement sur la journée de ce samedi 12 octobre où le Slovène s'est encore régalé.
Tadej Pogacar à 48 km 400 de l'arrivée et à 6 km 500 du sommet de la Colma di Sormano a décidé d'y aller et personne ne semble en mesure de suivre ou en tout cas ne souhaite prendre le risque de suivre Tadej Pogacar qui a pris une certaine avance, pas encore définitive mais une certaine avance sur une partie de la concurrence avec notamment Remco Evenepoel le Belge et Enric Mas l'Espagnol qui sont les deux derniers à pouvoir lui contester éventuellement sa suprématie mais il a déjà fait un trou de quasiment 100 mètres Tadej Pogacar.
RMC La flamme rouge.
Tadej Pogacar qui fait son entrée triomphale dans comme Tadej Pogacar qui a écrasé une dernière fois de son impitoyable main de fer cette année 2024. Les bras levés, l'arc-en-ciel vers le ciel justement. Tadej Pogacar, 25e victoire de la saison. Le épilogue d'une année absolument exceptionnelle. Vainqueur du Tour d'Italie, vainqueur du Tour de France, vainqueur de Liège-Bastogne-Liège, champion du monde et désormais vainqueur du Tour de Lombardie. Avec le bras levé et les vélos surtout dans les bras.
Voilà la victoire de Tadej Pogacar sur le Tour de Lombardie, la quatrième consécutive. Maintenant, il faudra aller chercher le record de Fausto Coppi, parce que Fausto Coppi en a fait quatre consécutives, mais il en
plus
a gagné
une.
Plus une, voilà. Arnaud, tu étais là, on t'a écouté, tu as suivi cette course de A à Z. Et je t'ai écouté notamment assez tôt dans la course, c'était totalement prévisible. Ce scénario, ça s'est passé comme prévu.
Oui, ça s'est passé comme prévu. De toute manière, il y avait une grosse équipe hein, alignée de la part du AE. On a fait rouler d'abord ceux qui étaient censés rouler, notamment Kristen. Voilà, on a vu Fisher Black également qui a beaucoup roulé. Et puis petit à petit, en fait, on a fait rouler des plus gros moteurs. Je pense à Adam Yates, il y a eu Pavel Sivakov en dernier. Et à 48 km de l'arrivée, en fait, c'était quasiment les pentes les plus difficiles du Sormano. C'est là où il a attaqué. C'est ça qui me fait dire, en fait, que tout était prévu. Personne n'a pu le suivre parce que j'imagine qu'Evenepoel aussi avait plus ou moins prévu que potentiellement Pogacar attaque à ce moment-là. Evenepoel, il a dit non, moi j'y vais pas. Enfin, il l'a pas dit comme ça sur son vélo, mais ouais, ça s'est vu. En tout cas, on a compris que c'est pas qu'il voulait pas y aller, c'est qu'il avait vraiment peur de se mettre dans le rouge et de le regretter derrière.
Ouais, Jérôme, c'était du tableau noir. On en parle souvent, mais là, Tadej Pogacar, l'équipe UAE, on savait où elle allait rouler. C'était dans le Sormano, on savait quand Tadej Pogacar allait attaquer, mais en fait on ne peut rien faire, même quand on s'appelle Remco Evenepoel, on ne peut rien faire contre Tadej Pogacar.
Ouais, en plus c'était écrit et je pense que Remco Evenepoel avait carrément pas les moyens de lutter avec Pogacar et il savait que de toute façon si ça se passait là il fallait surtout gérer pour faire podium. Malheureusement la concurrence elle n'était pas là non plus, je pense que Remco n'est plus dans la forme étincelante qu'il avait à Paris lorsqu'il a remporté ses deux titres olympiques et Pogacar avait avec lui en plus la meilleure équipe du monde sur le papier. Le seul peut-être qui aurait pu lui chatouiller les chevilles c'est Marc Hirschi, mais oui. Marc Hirschi il est dans son équipe, il s'en va et ils l'ont fait rouler comme ça au moins lui ça faisait une de moins et je crois que Remco Il a attaqué ce Tour de Lombardie, Remco Evenepoel, tu nous en diras plus Arnaud, mais je pense battu.
Un petit peu, ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais.
Il savait qu'il allait faire un peu d'eux, tu vois. Il a monté sans mano dans la roue de Tadej en se disant, bon, quand est-ce que tu t'en vas? Et moi, je ferai le point avec les autres, quoi. Il y avait Tadej et les autres. Et Remco Evenepoel a fait un numéro aussi, hein, puisqu'il a fait lui aussi 45 km tout seul, mais à un degré moindre et beaucoup moins vite que l'autre. Et au final, on a assisté vraiment à quasiment un défilé. Il faut dire aussi, les garçons, que le nouveau parcours du Tour de Lombardie, adapté à cause des précipitations des dernières semaines, favorisait ce genre d'attaque. Si on avait eu une difficulté un peu plus tardive, avec un parcours un peu moins difficile, mais surtout Sormano un peu plus proche de l'arrivée, ça aurait peut-être été différent. Là, c'était la seule où il pouvait exprimer son plein potentiel. C'est un col, hein, c'est 12 bornes. On le sait que ses talents de grimpeur, il n'y a pas son égal sur le terrain en ce moment et dans le peloton encore moins, à part Vingegaard qui a déjà rendu les armes et qui est déjà rentré au Danemark préparer la saison 2025. Donc finalement, le scénario, il était presque attendu. Pour moi, il a été moins exceptionnel sur le Tour de Lombardie qui ne l'a été, et là je demanderai un témoignage à Arnaud, sur le championnat du monde à Zurich où il y avait plus de concurrence.
Ah, oui, il a été exceptionnel sur les championnats du monde. Il y avait plus de concurrence, mais une concurrence qui s'est mal organisée. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierre. Moi, je trouve quand même que hier, il a survolé vraiment les débats. Bon, il y avait peut-être un tout petit peu moins de concurrence, mais enfin, quoique, ce n'est pas si sûr que ça. Hein.
Oui, après, hier, on voit que la concurrence, elle est au bout du bout. Parce que,
oui, c'est plus ça.
Il met 3 minutes à Remco, qui lui-même met quand même...
Oui.
Un bon petit écart à ses poursuivants derrière.
Ouais, Remco écrase la concurrence, voilà, c'est un peu Tadej Pogacar qui écrase Remco.
Voilà, qui sont mis dans le rouge, hein, parce que Henrik Maas et compagnie, en fait, quand ils se font doubler par Ticone, c'est parce qu'ils sont cramés. Donc, on ne peut pas dire que tout le monde est... que tout le monde n'ait pas donné le maximum. Tout le monde a donné le maximum, et il y avait un écart de niveau tel que ça a donné une course que moi... Pour devancer la question que tu vas me poser, que j'ai trouvé assez ennuyeuse. Et je pense que pour moi, c'était le monument où j'ai le moins vibré de la saison.
Oui, je suis d'accord avec toi. Mais après, n'oublie pas les scénarios de Liège-Bastogne-Liège où c'était un petit peu pareil. N'oublie pas Mathieu Van Der Poel à Paris-Roubaix qui met 3 minutes à tout le monde. On oublie quand même que Mathieu Van Der Poel a mis 3 minutes à tout le monde à Paris-Roubaix.
Non, mais...
c'est pas dit que tu l'avais oublié, j'ai dit
non,
de manière générale.
Dans les deux, c'est les deux monuments que j'ai trouvé les plus ennuyeux. Mais dans la dramaturgie des 3 minutes de Van Der Poel à Roubaix, il y a 3 crevaisons de Mats Pedersen, alors que Van Der Poel en a aucune. Et donc il y a cet effet. Ben c'est le cas à Roubaix. Hein, c'est qu'il faut que le matériel suive parce que sinon on perd du temps. Là, il n'y avait pas ça.
Il faut savoir piloter aussi.
Voilà, il faut savoir piloter. Donc, dans ces 3 minutes-là, il y a ça. Et par ailleurs, oui, j'oublie pas Liège, mais là, il y a un souci. Là, c'est pas vraiment de la faute de Pogacar. De toute façon, c'est jamais de la faute de Pogacar. C'est la réalisation télé nous a absolument pas fait vivre ce qui se passait derrière. Donc là, j'ai une espèce de contre-la-montre. J'avais Pogacar d'un côté, j'avais Remco de l'autre, j'avais de temps en temps un plan Sivakov, Maas. Et en fait... Ce qui était sympa à Liège, c'est Bardet.
Bien sûr qu'il
fait la bagarre, c'est la bagarre pour le podium. Et en fait, là, moi, si on m'avait vendu un Ticone qui remonte comme une furie pour aller doubler tout le monde dans la dernière bosse, j'aurais sans doute plus vibré. J'avais compris que Pogacar avait gagné, mais à la limite, ça, j'avais compris avant même le début de la course. J'avais compris que Remco allait sans doute faire deux. Je ne savais pas exactement s'il allait le suivre ou pas, ou partir. Ouais, mais ça, c'est pas vraiment... J'étais surpris qu'il ait lâché dans la descente. Et je me suis dit, Remco, il a quand même... C'est un champion. Il a besoin de prouver quelque chose aussi sur le Lombardie. Il a besoin de prouver qu'en descente sur le Lombardie, il est capable de faire quelque chose. Et moi, j'ai trouvé, avec toutes les limites et son côté râleur et la course énervée sur tout le monde, la caméra, voilà. J'ai trouvé que c'était un champion de dire, OK, j'ai failli mourir sur cette descente-là. Mais regardez, je suis là. Bon, j'ai pas gagné parce que il y a un extraterrestre. Mais moi, je peux regarder dans la glace.
On va l'écouter dans un instant, Remco Evenepoel. Mais tu parlais de cette lutte. Justement, c'est un coup de gueule qui a poussé également Philippe Gilbert sur la réalisation comme ça. Ok, Tadej Pogacar est largement devant. Maintenant, il faut se concentrer vraiment sur cette bataille pour le podium qui est toujours intéressante. Et on avait notamment un Français qui était en lutte pour cette bataille sur le podium. Il fait partie de l'équipe de Tadej Pogacar. On va l'écouter. C'était Pavel Sivakov à ton micro, Arnaud.
Objectif atteint, ça a été une belle journée et rien à dire. C'était prévu et ouais, on a exécuté le plan à perfection et c'était ouais, super.
Et moi j'avais des super sensations aujourd'hui, franchement je pense que j'avais les jambes pour faire un podium, j'ai loupé un petit peu.
C'était une belle course, je suis content de ma course et au final objectif atteint avec Tadej. Toute l'équipe a fait un super job et on peut être que content de terminer le dernier monument comme ça. J'ai exécuté mon rôle à perfection je pense.
Voilà, un rôle pour Pavel Sivakov qui fait quand même une dernière partie de saison assez énorme, Arnaud.
Ah bah il dit qu'il est dans la forme de sa vie, hein, mais hier, enfin avant-hier, plutôt sur le Tour de Lombardie, samedi, franchement, il y a un moment où justement, dans la toute dernière difficulté, il attaque Henrik Maas et ouais. Je ne sais plus qui était avec lui à ce moment-là. Enfin, Henrik Maas et un autre coureur, et où tu te dis, oh, allez, il va aller le faire la troisième place en solitaire. Bon, finalement, il a un petit peu présumé de ses forces derrière et se faire rattraper. Il avait vraiment les boules d'avoir fait sixième à l'arrivée parce qu'il se le voyait bien, ce petit podium.
Ouais, je comprends, mais en même temps, je me dis, pour lui et pour les UAE, c'est peut-être pas plus mal parce que là, ça aurait fait vraiment un coup sur la tête de tout le monde. Parce qu'il y a déjà le coup Tadej, mais avec la rampe de lancement, les efforts qu'il a fait dans le Fermano, donc les 6 premiers kilomètres, mais les 6 d'après, parce que les 6 d'après, lui, il ne se relève pas quand Tadej attaque. Il continue et il recolle assez vite à Maas et Remco. Mmh. Donc, si en plus il leur fait ça dans la dernière montée,
ça aurait piqué.
Voilà. Justement, Jérôme, il me semble que toi, t'es pas d'accord sur Pavel Sivakov.
Ben, je te rejoins pas sur le fait que ça aurait fait tâche, parce que justement, je pense que en ayant fait un énorme travail comme a fait Pavel pour Tadej Pogacar sur la partie la plus difficile de la course, ça signifie aussi que la concurrence n'était pas à son meilleur niveau derrière Pogacar, même si on va pas essayer d'atténuer par n'importe quel sens le fait que Pogacar a dominé. Imaginez-vous qu'un mec qui fait le tempo, qui fait tout péter, quand il s'écarte, son leader attaque pour aller chercher la gagne, et derrière il est encore capable de faire mal aux adversaires principaux de ce leader. C'est donc que derrière la concurrence, c'était pas du très grand Maas, c'était du très bon Remco, mais pas de l'excellent Remco. Van Aert était très bon et Ciccone n'est pas l'un des tout meilleurs coureurs du monde dans ce genre de classique. Donc on peut se dire aussi que la super performance de Pavel confirme que derrière on était soit en jouet battu, soit on n'était pas au taquet, mais ce qui peut s'expliquer, parce qu'un coureur qui se prépare pour une course, il se prépare pour la gagner, et quand tu te prépares pour aller faire deux ou trois parce que tu sais que tu es un extraterrestre, ben c'est peut-être pas la même implication au départ. Et la perf de Pavel Sivakov, moi, me confirme que les adversaires principaux de Pogacar jouaient battus dès le départ, quoi.
Et justement, la transition est toute trouvée. Pavel Sivakov qui fait sixième, pour vous donner l'autre Français présent dans le top 10, c'est David Gaudu, hein, qui termine neuvième. Et je vous propose, je vous le disais, d'écouter Remco Evenepoel qui parle de cette deuxième place. On le rappelle, à plus de 3 minutes de Tadej Pogacar, Remco Evenepoel.
Je suis content et j'ai donné le maximum, ça c'est clair. Pour moi, c'est comme une victoire. Il y a 4 ans que j'ai pas pu terminer la course, j'ai terminé dans l'hôpital, donc pouvoir finir aujourd'hui sur la deuxième place, assez loin des autres. C'était une victoire personnelle pour moi, donc juste pour ça encore un grand merci au public pour le soutien. Depuis les débuts de l'année et jusqu'à la fin, c'était extraordinaire. Et aussi pour terminer avec une course comme celle-ci, avec ce résultat, c'est la meilleure chose qu'on pouvait penser ce matin.
Pierre le disait, Jérôme, il y a toute cette histoire derrière Remco Evenepoel où il a failli vraiment mourir sur cette course du Tour de Lombardie il y a quelques années. C'est une revanche à prendre, mais on a aussi le sentiment qui partait pas pour gagner cette course, il partait pour faire deuxième. Un immense champion comme ça, comme Remco Evenepoel, qui a été champion du monde, qui est double champion olympique. Est-ce que tu comprends cet état d'esprit avant une course aussi importante que l'est le Tour de Lombardie ?
Il est allé au Tour de Lombardie pour prendre une revanche sur lui-même et sur le destin qui lui était réservé il y a 4 ans. Mais il sait aussi, Remco, qu'il finit émoussé. On l'a vu sur pas mal de courses de fin de saison en Italie. Il a abandonné certaines, il a pas lutté sur d'autres. Je pense qu'il est un peu rincé, un peu émoussé. Et malgré tout cela, il vient faire deuxième du Lombardie. Il a plus fait le Lombardie pour lui-même et pour braver un peu le signe indien qu'autre chose. Maintenant, ça ne sera pas toujours le cas. Je sais que tu veux parler de la saison 2025 et en 2025, on abordera certains éléments et certains événements différemment de la part de Remco. Ce n'est pas un mec qui vient pour faire de Remco. On le sait, on l'a vu dans son comportement avec les autres. Même quand Pogacar est parti, il criait, il faisait des grands gestes. Il avait un peu retrouvé ses mauvais gestes de début de saison, ce qu'on lui a loué par ailleurs au Tour de France pour avoir perdu ses mauvais réflexes-là. Maintenant, c'est Remco, c'est un gagnant, c'est pas un mec qui va venir pour se faire taper dessus. Mais je pense que sur ce Tour de Lombardie-là, il avait à cœur d'autres choses. Il est cherché peut-être une quête envers lui-même plus que de battre l'adversaire.
Après, bon, moi, je pense quand même qu'il aurait bien aimé gagner. Je pense que se prendre 3 minutes par Pogacar, malgré ce qu'il nous a dit là dans l'interview, il l'avait mauvaise. Et d'ailleurs, il y a une photo assez amusante des deux.
Mais t'as vu, Arnaud, il parle des autres. Il parle même pas de Pogacar.
Oui, non, mais absolument. Non, mais après il parlait à l'arrivée, il parlait des autres aussi parce que il avait envie quand même de rester positif. Justement, voilà, il y a cette rhétorique. Et ça, par contre, je veux bien le croire, que ça soit pour lui une espèce de façon d'exorciser ce qui s'est passé en 2020. Ça, je veux bien le croire. Il avait les boules. Franchement, quand tu te retrouves à engueuler la moto suiveuse sous prétexte que t'entends pas, la moto caméra sous prétexte que t'entends pas ce qui se passe dans ton oreillette, et c'est un petit peu les choses qu'on a pu voir à plusieurs reprises cette saison de la part de Remco Evenepoel. Il est pareil pendant les championnats du monde, il engueulait tout le monde parce que ça roulait pas. Là, l'autre jour, il a engueulé Mas parce que Mas pouvait pas rouler. Après, il est parti tout seul. Il se retrouve à enguirlander la moto caméra. Bref, je pense quand même que tu peux pas te satisfaire quand tu t'appelles Remco Evenepoel de cette deuxième place foncièrement. Maintenant, voilà, lui, ce qu'il disait à la fin de la course, c'est aussi: il va falloir que je progresse et que je comprenne comment un jour je peux battre Tadej Pogacar. Donc ça veut dire arriver à avoir plus de résistance dans les montées longues. Je te vois d'autres de l'inné de la tête, Pierre.
Oui, Remco, oui, il faudrait qu'il soit plus résistant dans les montées longues. Après, les 3 minutes, il les perd pas en montée. Hein. Les 3 minutes, il les perd en descente et sur le plat. Quand tu es champion du monde du contre-la-montre, champion olympique du contre-la-montre, ça doit piquer. Hein.
Oui, après, parce que tu les perds vraiment.
Pierrot, il a perdu 3 minutes sur les 50 derniers, les 48 derniers kilomètres. Il les a perdus de façon très régulière. Il est tombé tout simplement sur un mec qui roulait plus vite partout et à l'usure sur les 250 kilomètres que proposait le parcours. Simplement, il était moins fort et il les a perdus partout. Il y a pas. Regarde, moi j'ai regardé tout le final. Il n'y a pas un moment où tu te dis: ah ouais, là il a perdu gros. Ça allait moins vite tout le temps dans les montées, dans les descentes, sur le plat.
Sauf dans la descente du Sormano où il a réussi à lui reprendre 20 secondes.
Où il a plutôt bien descendu. Plutôt bien descendu. Je suis assez d'accord avec toi. Ouais.
Ouais, mais au moins ça c'est important pour lui. On le disait, cette descente du Sormano, de bien la prendre pour lui vu son histoire. Mais c'est vrai que Pierre, tu le disais, c'est dans les parties. Voilà, en plaine, dans les vallées comme ça, normalement il est capable de revenir à Remco Evenepoel, ou en tout cas de pas perdre de temps sur Tadej Pogacar. Là, il l'a pas fait.
Oui, je sais pas s'il serait revenu, mais il aurait pas pris 3 minutes dans une autre configuration. Après, effectivement, c'est la dernière course de la saison. La saison, elle a été longue. Il y a eu des hauts, des très hauts, notamment pour Remco, et des bas aussi, et des très bas aussi. Je comprends qu'il ne donne pas tout pour revenir, sachant qu'il sait très bien qu'il ne va pas revenir. Et il veut surtout creuser l'écart avec les gens de derrière. Donc c'est plus ça. Je pense qu'il ne voulait pas arriver avec, je vais le dire de façon extrêmement pas sympa, mais je pense qu'il ne voulait pas arriver avec la plèbe. Il voulait lui aussi arriver en solo comme l'empereur. Mais bon, donc ça, il a réussi à le faire, mais de là,
final,
à aller tout donner.
Non, son approche du final, elle est effectivement largement imagée comme ça. C'est-à-dire que quand Pogacar part, il veut être le seul derrière Pogacar et pas avec personne. Et comme tu dis, il a perdu 3 minutes. Mais si c'est pour la gagne et qu'il sent qu'il peut aller chercher l'autre devant, il roule peut-être différemment. Mais là, on a senti qu'il voulait faire une Pogacar bis à son niveau à lui. Et ce que le physique du jour J lui proposait, mais pas plus. Il savait qu'il ne pouvait pas faire plus. Il a quand même fait une énorme saison, hein, Remco. Donc, il fait partie de ceux qui sont
9 victoires,
au Pays Basque,
double champion olympique, champion du monde du contre-la-montre.
Il est double champion olympique. Ouais, avec beaucoup, beaucoup. Tu sais, quand tu sais ce que c'est que l'émotion d'être double champion olympique, tout coureur pourrait partir en sucette et dire après ça, moi, la saison, c'est fini, c'est bon, j'ai réussi ma saison. Il venait de faire 3 du tour, double champion olympique. Et quand même, coup de chapeau, il se remet en selle et sur la course qui a failli le condamner parce qu'il avait une lourde chute et ça aurait pu être bien plus grave, il revient quand même jouer avec les meilleurs. Donc, il faut retenir ça aussi, c'est un garçon de caractère. Tous les champions ont des ont du caractère, mais quand même, chapeau à lui. Quoi.
Pour finir sur Remco Evenepoel, qui avait aussi été victime de la gravissime chute sur le Tour du Pays Basque au début du mois d'avril, qui avait eu une clavicule cassée et qui, pareil, était revenu quand même sur le Critérium du Dauphiné, avait gagné le contre-la-montre du Critérium et après avait terminé 3e du classement général, si je ne dis pas de bêtises. Donc, ouais, non, c'est quand même une super saison de la part de Remco Evenepoel. Maintenant, on a vu vraiment l'écart que je qualifie et que je continuerai à qualifier d'abyssal qu'il y a entre Tadej Pogacar et Remco Evenepoel sur ce genre de course.
Ouais, parce qu'il est double champion olympique, mais il n'y avait pas Tadej Pogacar sur ces courses-là et ça aurait pu tout changer pour le Slovène. Avec toi, Pierre, on va voir aussi, parce que Tadej Pogacar, c'est pas que le Tour de Lombardie, c'est pas que des victoires, il a littéralement écrasé toute la concurrence avec des... Tu le disais, pour reprendre l'expression d'Arnaud, des écarts abyssaux, en fait, à chaque fois.
Alors, oui et non, parce qu'il y a les écarts de type Tour de Lombardie, 3 minutes, merci, au revoir, et on vous oublie. Et il y a ce qu'on a vu au championnat du monde, ce qu'on a vu à Montréal, ce qu'on a vu aussi sur les premières montées du Tour de France. Il prend qu'une minute à chaque fois. Il prend qu'une minute sur... Je laisse de côté l'Estrade, mais il prend qu'une minute. Mais il arrive, et ça c'est extrêmement impressionnant, à garder cet écart tout le temps. Et personne, qu'il soit seul ou à plusieurs, n'arrive à lui reprendre du temps.
Est-ce qu'on collabore suffisamment bien derrière ou est-ce qu'on a la force de collaborer suffisamment bien pour lui reprendre du temps? C'est aussi ça la question. Est-ce qu'il n'y a pas un côté, est-ce qu'il n'est pas rentré tellement dans la tête de ses adversaires? Je veux dire, sur les championnats du monde, moi je comprendrais... toujours pas comment c'est possible qu'un mec avec 45 secondes ou 50 secondes d'avance pendant 100 bornes soit pas rejoint par un groupe de 10 derrière, qui ne s'entend jamais, dans lequel il y avait d'ailleurs Remco Evenepoel, dans lequel il y avait Mathieu Van Der Poel.
Et souviens-toi de la 4e étape du Tour de France, pareil, et sur la descente et sur
le c'est vrai. Ouais.
Il creuse. Et là, il y a aussi des cadors. Et là, c'est pas des équipes nationales, c'est des équipes structurées, organisées, qui bossent ensemble toute la saison. On n'arrive pas à reprendre du temps à Tadej Pogacar.
Mais c'est ça la question, Jérôme, cette emprise mentale de Tadej Pogacar qui a surdominé évidemment toutes les courses auxquelles il a participé, ou quasiment toutes les courses. Comment on fait quand on est derrière comme ça? Est-ce que finalement on n'en est pas dans les autres équipes et dans les autres grands leaders, et même on l'a vu à l'image de Remco Evenepoel, à oublier en fait Tadej Pogacar, à faire une autre course?
Bah moi, je pense qu'il y a deux choses qui sont très importantes à signaler. Et je rejoins Arnaud sur le championnat du monde. Il y a deux erreurs fatales. Championnat du monde, ils sont trois favoris, trois ultra favoris. Et les deux autres sont Van Der Poel et Evenepoel. Et quand Tadej Pogacar démarre, quand bien même c'est à 100 km, quand tu es favori de l'épreuve, tu dois être dans sa roue. Et là, il y a une grosse erreur de fait de la part. Parce que l'attaque, elle n'est pas stratosphérique. C'est pas une bosse de 12 km où on se dit « Ah, sur ce terrain-là, je ne peux pas y aller ». Van Der Poel, il peut y aller à ce moment-là. Il dit « j'étais pas bien placé ». Tu n'as pas le droit de ne pas être bien placé quand Pogacar attaque, puisque ton dernier équipier s'est écarté. Donc là, il y a une erreur. Ensuite, la collaboration. La collaboration sur chacune des courses, elle n'a pas été bonne. Sur l'Estrade, il les a écrasés. Au bout de 3 km d'échappée, on a commencé à se dire « bon, ben, on n'ira pas le chercher, on va jouer la place de deux ». Après, il y a deux choses. C'est-à-dire que sur des courses type flandrienne, il a un seul et unique adversaire qui s'appelle Mathieu Van Der Poel. Si Van Aert revient, ça fera deux. Et sur les courses les plus difficiles, type ce parcours montagneux, il y en a deux aussi. Je mets Evenepoel à un degré moindre. Mais il y a surtout Jonas Vingegaard sur ce genre de course, qui n'est pas présent au départ. Parce que dès que c'est dur en montagne, il n'y en a qu'un qui peut le suivre. Regardez les étapes du Tour de France en montagne. Avant que Vingegaard plie les ailes sur la troisième semaine, il est dans le tempo. Il n'arrive pas à le lâcher. Il n'arrive pas à le distancer avec de gros écarts. Mais comme Vingegaard ne fait pas ces courses-là, et pour le fait qu'il ait eu cette grosse chute aussi au Pays Basque, hein, parce que certainement qu'il aurait finalement fait ces courses-là, bah on s'aperçoit que lorsque lui il domine dans tous les domaines, bah il n'a peut-être pas non plus les adversaires à sa hauteur, ne serait-ce que pour essayer de contrecarrer ses plans, hein, tout simplement.
Pour te donner, dans ton sens, Jérôme, pour te donner raison, je reviens à ce que tu disais, Evenepoel, Van Der Poel mal placé sur les championnats du monde, ils doivent être dans sa roue, ils doivent sauter dans sa roue. Souvenez-vous l'étape de 3 sur le Tour de France, où quand Pogacar décide de faire sauter tout le monde, il y en a un qui suit dans sa roue et qui, mais alors bouge pas une oreille, c'est Vingegaard. Voilà, donc c'est vrai que ces mecs-là, ils auraient dû y être et on peut pas se plaindre derrière d'avoir un mec qui fait une échappée de 100 km. C'est juste qu'ils sont mal placés et derrière, ils sont pas capables de collaborer pour essayer de revenir. Mais moi, je suis désolé, c'était pas si évident que ça, sa victoire au championnat du monde. Il y a un moment, sincèrement, où moi, je me suis dit, j'étais plus du tout sûr que Pogacar allait gagner si ça collaborait bien derrière.
Et il a profité, n'oublions pas, de cette guerre fratricide qu'il y a entre ces deux pays et ces deux coureurs, Evenepoel, Van Der Poel. Hein. Pays-Bas-Belgique, c'est toujours été la guerre et il en a profité. Aujourd'hui, je pense qu'Evenepoel préfère voir gagner Pogacar que voir gagner Van Der Poel, c'est une certitude.
Ouais, peut-être. En tout cas, Tadej Pogacar sur 2000 cette saison. Jérôme, Pierre et Arnaud, je vais vous poser une question toute simple. On en a parlé, 25 victoires cette saison, 2 grands tours, 2 monuments. Est-ce que c'est la plus grande saison de l'histoire de manière individuelle d'un coureur cycliste, Jérôme ?
Oui, ça l'est. Et je dirais même que jusqu'à preuve du contraire, et qu'on amène la preuve du contraire, Tadej Pogacar est un coureur... est un des sportifs les plus forts de la légende du sport. Il est en train de rentrer dans la légende du sport. Je dis bien jusqu'à temps qu'on m'amène le contraire. Et Tadej Pogacar est certainement le coureur le plus fort de l'histoire du cyclisme parce qu'il est dans une concurrence internationale et qu'on est en train de vivre l'histoire de ce sport avec ce garçon.
Ouais, le seul qu'on pourrait mettre au même plan, Pierre, tu vas être d'accord et on est tous d'accord, c'est Eddy Merckx. Mais est-ce que Merckx a fait aussi bien que Tadej Pogacar difficile
de comparer
les époques à chaque fois.
Eddy Merckx, c'est ça.
Oui, voilà, c'est ça.
Ah, moi, j'ai pas vu une saison d'Eddy Merckx en entier, hein, donc j'ai du mal à comparer. Déjà, de toutes les années où j'ai suivi le vélo, on mettait Merckx très très haut et puis après on parlait des autres. Donc là, de le mettre au même niveau, c'est déjà complètement fou. Et après, quand on regarde les lignes de palmarès un peu froidement et l'impression globale de la saison. Oui, on peut se dire qu'on a eu la plus belle saison. D'ailleurs, Merckx l'a dit, donc il y a lui qui est le mieux placé pour le dire, l'a dit. Donc je pense que ça, le débat est vite clos par Merckx lui-même. Est-ce que quelqu'un pourra faire mieux l'année prochaine ou après ? J'en suis même pas sûr.
Bah justement, c'est la question qu'on peut se poser, parce que le seul capable de faire mieux, Jérôme, il s'appelle Tadej Pogacar, parce que je me demande si finalement on n'est pas qu'au début de l'ère Pogacar. Évidemment, il domine le cyclisme depuis longtemps, mais il était toujours à la lutte. On en parlait avec Mathieu Van Der Poel, avec Jonas Vingegaard sur les grands tours. Là, il a surdominé. Est-ce que ça va continuer en 2025 ? Est-ce que, Jérôme, Tadej Pogacar est devenu intouchable, imbattable ?
Non, je crois pas. Je crois que c'est un garçon qui a surfé sur une saison où il lui est rien arrivé. Il a eu 100% de réussite. Il était le plus fort, il était très fort, il a fait un très bon hiver. Il sortait d'une saison où il a été mis en très grande difficulté sur le Tour de France. Il ne l'a pas gagné. Il avait fait un choix de Giro pour un peu se remettre la tête à l'endroit et aller chercher des courses parce qu'il s'était dit peut-être que je battrai jamais Vingegaard sur le Tour. Et puis patatrac, Tour du Pays Basque, chute et tous ses adversaires chutent. Et c'est pas impossible que dans les années à venir, c'est pas ce qu'on lui souhaite, mais que ça lui arrive à lui. Il peut aussi avoir une contre-performance, puis surtout de très dominer comme cela. Est-ce qu'il va être assez fort dans sa tête pour se remettre les mêmes challenges alors qu'il a cette marge de manœuvre, entre guillemets, face à ses adversaires ? J'en suis pas sûr. On peut regarder par le passé, dans les années lointaines. Jan Ullrich a commencé à gagner son premier tour. On s'est dit, c'est parti pour 5 ou 6 Tours de France. Et patatrac. Dans le sport et d'autres sports, Kylian Mbappé aujourd'hui était ultra dominateur. La vie, les choix, les entourages, et puis tout peut basculer. Donc oui, il est au-dessus, il est bien plus fort cette année 2024, mais non, je n'inscris pas. On est loin d'être certain qu'il n'arrive rien à Pogacar et qu'il continue à dominer. Un mec comme Jonas Vingegaard va forcément venir le chatouiller sur certains de ses terrains et ça va relancer forcément le suspense sur de grandes courses. Quoi.
Pierre, tu voulais réagir ?
Oui, parce que revenons un an en arrière. Il y a un an, il y avait une équipe qui avait gagné les 3 grands tours, qui avait les meilleurs coureurs du monde.
Mm-hmm.
C'était la
Jumbo Visma. Ils ont fait 1-2-3 de la Vuelta, voilà. On doit se le rappeler quand même.
Voilà, ouais. C'était il y a un an. Depuis, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont perdu leur sponsor principal. Ça, ils l'ont remplacé, mais bon, compliqué. Ils ont perdu leur directeur sportif numéro 1. Ils n'ont pas gagné une grande course. C'est quoi le meilleur résultat de la Visma Lease Bike cette année ? À travers la Flandre, Matteo Jorgensen. Le reste, c'est la deuxième place de Vingegaard au Tour de France et Wout van Aert qui fait un peu rêver sur le
Paris-Nice.
Et
Jorgensen sur Paris-Nice. Donc quelqu'un qui n'était même pas là,
ouais,
quand ils étaient ultra dominateurs et qu'ils ont pris pour, densifier leur effectif, mais pas la star pour remplacer Roglic. Donc ça va très vite. En un an, cette équipe qui était imbattable est devenu battu par tout le monde. Là, le meilleur résultat d'un Visma sur un monument, c'est 12e.
C'est dingue quand même.
Tige Benoît sur Liège. Donc ça va.
Bon, après, il y a des circonstances avec vous.
Il y a plein de circonstances. Effectivement, ils sont tous tombés. Ils sont tous tombés plein de fois.
Non, mais et pour redonner envie aux passionnés de cyclisme sur la fin de saison et qu'ils regardent dès le départ de la saison 2025, n'oublions surtout pas, les garçons, le début de saison de Jonas Vingegaard, qui dominait autant la tête et les épaules que Pogacar en début de saison. Avant sa chute, il a tout gagné et il gagnait en ratatinant les autres. Hein.
Mais justement, tu parles de...
Il est là aussi l'espoir de revoir une saison complète.
Voilà, tu parles de Jonas Vingegaard, mais on a l'impression que c'est finalement le seul. Alors évidemment, j'enlève les courses comme Paris-Roubaix, comme le Tour des Flandres, où Vingegaard ne pourra, je pense, hein, jamais rien faire et jamais rien espérer. Mais est-ce qu'on n'en est pas à vouloir vraiment un Jonas Vingegaard qui s'aligne sur des Liège-Bastogne-Liège, qui s'aligne sur des Tours de Lombardie? Est-ce que le Danois, c'est pas le seul finalement qui pourrait essayer de le titiller, Jérôme?
Ah bah c'est sûr. Aujourd'hui, on l'a vu, dès que c'est des parcours montagneux, semi-montagneux, le seul qui peut lutter avec Pogacar et même le battre, il s'appelle Jonas Vingegaard. C'est le seul. Mais quand on voit le niveau d'excellence de Tadej Pogacar, évidemment qu'il n'y a pas 10 coureurs. Il n'y a jamais eu 10 coureurs dans la même génération capables d'évoluer à ces niveaux, à de niveaux tels. Donc évidemment qu'on souhaite que Vingegaard fasse une saison complète. Mais l'an dernier, il était parti sur une saison à peu près complète, hein, avant de chuter autour du Pays Basque. Il avait prévu de participer à des courses d'un jour, à des monuments, faire le tour, voilà. Mais malheureusement, la chute a contrecarré tous leurs plans. Et si Jonas Vingegaard revient au premier plan avec une forme étincelante, comme il a eu sur le tour pendant 2 semaines, on peut s'imaginer qu'il vienne titiller Pogacar sur ce genre de monument tel que Liège, la Lombardie, etc. Évidemment.
T'es d'accord avec ça, Pierre? C'est vraiment le seul, le Danois, à pouvoir rivaliser. Est-ce que déjà tu penses que même sur une course d'un jour, sur un monument, il est capable de tenir la route de Tadej?
Je suis pas sûr, parce que je ne l'ai jamais vu et qu'il a quand même 28 ans, 29 ans. Donc je pense qu'on aurait peut-être, on l'aurait vu un peu avant. Non, sur les courses d'une semaine, oui. Sur les courses... Moi, ce que je souhaite, en fait, et c'est ce qu'on n'a pas eu, alors qu'au début de la saison, on parlait des 4 fantastiques et de ces affrontements, un tel contre un tel sur cette course, un tel contre un tel. Avec la grosse chute, avec... on ne les a jamais eus, en fait. On n'a jamais eu deux des meilleurs capables à Roubaix, on n'a jamais eu deux des meilleurs capables de gagner à Liège. Enfin, la seule fois où on a eu les meilleurs au départ de la course, c'était Milan-San Remo, et du coup, Van Der Poel a empêché Pogacar de gagner. Et ni l'un ni l'autre n'a gagné au final, mais c'est la seule fois où, en fait, on a eu deux, ce qu'on appelait les fantastiques au début de la saison, qui ont réussi à... Et du coup, ça a donné un scénario un peu différent. Est-ce que Vingegaard est le seul sur un certain type de parcours?
Bien
oui,
sûr.
Mais sur les courses d'un jour, il n'a encore pas montré grand-chose. J'avais plus confiance en Remco, mais il n'a pas pu faire Liège. Lombardie, c'est compliqué, on est en fin de saison, tout le monde n'est pas au même niveau. Il reste le regret, bien sûr, qui est le regret de toute la saison, et je pense de tous les amoureux du cyclisme, c'est que Pogacar n'ait pas fait les Jeux Olympiques. Parce que là, on les avait tous. On les avait tous sur un parcours qui convenait à peu près à tous.
Non, mais là, s'il fait les Jeux Olympiques, Jérôme, qui gagne les Jeux Olympiques, qui gagne les championnats du monde,
pas, ça, ça rebâtit complètement... rebat complètement les cartes. Mais c'est le... C'est vraiment l'affrontement ultime, c'était ça, en fait.
Ouais, au moins, ça nous laisse un petit peu de cartes à jouer pour Tadej Pogacar, un petit peu d'objectifs aussi pour lui dans 4 ans avec les JO à Los Angeles. Mais tu parlais de l'âge, justement, de Jonas Vingegaard qui approche de la trentaine. Bah, Tadej Pogacar, Jérôme, il a seulement 26 ans. Toi qui es ancien coureur, la maturité physique, on est d'accord, ça arrive maintenant, en fait, pour Tadej Pogacar. Le meilleur est à venir, en fait, pour le Slovène.
Ah, il est dedans. Ah bah il est dedans, hein. c'est l'âge où on est le meilleur entre 25 et 30, donc on peut s'imaginer qu'il a encore de très belles années devant lui, et évidemment qu'il est en plus très jeune encore, donc il rentre dans la pleine force de l'âge, il rentre dans une stabilité aussi, on va dire, familiale. C'est un mec qui est posé, c'est pas un garçon qui est à la recherche d'une vie sentimentale ou quoi. Donc effectivement, il a tous les critères mis en place pour réussir sa carrière et continuer à battre des records. Maintenant, on doit aussi se donner espoir. On dit que Jonas Vingegaard a 28 ans, mais il court pas beaucoup. Il a fait une demi-saison cette année. Et c'est pas un garçon qui s'épuise dans les compétitions. Il fait beaucoup d'entraînement, mais c'est encore un garçon qui a de la ressource. Puis il y en a d'autres qui arrivent, de la jeune génération. On parle du petit Torres en Espagne, on parle du petit Sexas qui va arriver en France, on l'espère. Alors pas l'année prochaine, mais d'ici quelques années, mettre à mal. Et puis je vous dis, le sport est tellement rempli de surprises et parfois de contre-performances et de petites choses qui peuvent dérégler la machine. Le cyclisme et le sport de très haut niveau, c'est ça. Un grain de sable et patatrac, tout est déréglé. Donc il faut quand même garder cet espoir-là et se dire qu'on va aussi établir quelques stratégies dans l'adversité de Pogacar pour essayer de contrecarrer tout ça. En tout cas, on ne va pas continuer à se faire battre à plate couture par le Slovène.
Et au-delà de l'âge, il faut aussi calculer le nombre de saisons au plus haut niveau. Parce que certes, il n'a que 26 ans, mais il est quand même là depuis un bout de temps. Il est quand même là depuis 5 ans, 6 ans. Et regardons ce qui se passe.
Et puis, il ne court pas à l'économie. Hein.
Voilà, il ne court pas à l'économie. Regardons ce qui se passe dans d'autres sports. Raphaël Varane, 31 ans, rideau. Antoine Griezmann, 31 ans, plus d'équipe nationale. Enfin,
rideau avec la sélection, Griezmann, c'est pas tout à fait pareil.
Oui, bah oui, jusqu'à l'année prochaine. Mais
il lève le pied, quoi.
Voilà, on est sur des carrières qui sont pas. Oui, ils ont commencé jeunes et du coup, c'est plus compliqué d'aller jusqu'à 35, 36, 37. Après, on a aussi vu Cristiano Ronaldo
encore
compétitif à quasiment 40 ans, donc. Il n'y a pas de vérité, mais on peut aussi imaginer un Pogacar qui fait autre chose tôt. On a vu Peter Sagan qui avait commencé tôt, il a arrêté au final assez tôt.
Oui, c'est vrai, mais Peter Sagan ne dominait pas outrageusement les débats comme le fait Pogacar.
Il a eu 2-3 très bonnes années quand même. Hein.
C'est vrai, oui, mais c'était pas là. C'était
il a quand même été ultra dominateur dans un domaine qui était le sien.
Oui, voilà, qui était le sien, mais Tadej Pogacar, c'est dans tout. Donc c'est vrai que c'est tellement particulier.
Et
c'est la différence aussi avec Jonas Vingegaard ou encore Primoz Roglic qui ont commencé et éclos sur le tard. Justement, on parlait de cette maturité physique. Jérôme, de Tadej Pogacar, entre 25 et 30 ans, il a 26 ans, le Slovène. Mais il y a aussi l'envie qu'a Tadej. On sait le bonheur que c'est pour lui d'aller chercher des courses qu'il n'a pas encore gagnées. Qu'est-ce qui lui reste à faire? Qu'est-ce que tu imagines pour lui en cette saison 2025? Est-ce qu'il va aller chercher, il va encore essayer d'aller chercher un Milan-San Remo, par exemple?
Ouais, je pense que ça va être tracé autour de ça, un Milan-San Remo. Qui va chercher chaque année à aller chercher, peut-être qu'il ne l'atteindra jamais. C'est une course qui est très difficile à gagner pour les qualités qu'il a. Il n'a qu'une rampe de lancement, c'est le Poggio, et c'est compliqué de faire des différences parce qu'il y a une telle concurrence, et c'est le début de saison, tout le monde est frais, tout le monde se prépare. Ensuite, il y aura un doublé Tour de France Vuelta, et puis une grosse bataille pour le Tour avec Vingegaard, on l'espère. Et moi, j'aimerais qu'il tente Paris-Roubaix, parce qu'il est capable, il est allé sur son vélo, il a gagné le Tour de Flandre déjà. Ouais, dès cette année, bah, il faut qu'il aille chercher le plus vite possible tant qu'il a cette forme-là et cette supériorité-là. Hein. Tu sais, il ne va pas aller faire Roubaix pour le faire, il va aller le faire pour gagner. Et aujourd'hui, quand il a une grosse équipe et que tu roules comme lui avec les qualités physiques qu'il a, il ne prendrait pas énormément de risques à aller faire Paris-Roubaix avant de couper et préparer les grands objectifs de juillet et de septembre. Hein.
Donc Milan-San Remo, Paris-Roubaix, la Volta, ce qui est sûr déjà, c'est qu'il ne tentera pas le triplé des grands tours quand même. On l'a presque espéré cette année après avoir fait le doublé Giro Tour de France. Et justement, il s'est exprimé lors de la fin de course au micro d'Arnaud Souk sur le Tour de Lombardie. On lui a posé la question sur ses objectifs en 2025, on l'écoute.
C'est incroyable, le plan était bien en place dès le début et tout s'est déroulé plutôt sans accroc cette année. Je suis vraiment content de terminer la saison avec une victoire. Je ne pense tout de même pas tenter le triplé sur les grands tours l'année prochaine. Il faut aussi respecter mes coéquipiers car ils sont capables de gagner. On a une équipe solide qui peut remporter un grand tour même sans moi. Donc on verra où l'équipe décidera de m'envoyer l'année prochaine.
Qu'est-ce qu'il est classe, Pierre. Tadej Pogacar, il pense à l'équipe aussi. Hein.
Quand il dit, on va voir ce que l'équipe envoie, je pense qu'il a quand même son mot à dire dans où l'équipe l'envoie. Hein. Mais bon, après, ce qui est sûr, c'est qu'il va devoir faire le Tour de France. et que tout va tourner autour de ça. Et moi, je sens quand même une passion assez forte, naissante, mais très, très forte avec le maillot arc-en-ciel.
Oui.
Et que tant que le parcours du championnat du monde lui convient, comme ce sera le cas l'année prochaine, je ne le vois pas renoncer à ça. Et du coup, ça implique un peu de renoncer au rêve de trois grands tours.
Jérôme, tu voulais réagir?
Oui, tout à fait. En plus, le prochain championnat du monde qui ne lui convient pas, c'est Copenhague 2029. Donc d'ici là, on est large. Il a des parcours qui lui conviennent et c'est clair que ce parcours-là, ce maillot-là, ce titre-là, lui tient à cœur. Ici, il doit récompenser le meilleur coureur du monde, autant qu'il soit sur ses épaules à lui, ce maillot. Donc c'est vrai que lui, ça lui va bien, nous, ça nous va bien, puisque si ça doit représenter ça, eh ben, tant mieux. Et pour faire le championnat du monde, il ne faut pas faire la Vuelta si on fait le Tour de France. S'il ne faut pas faire les trois grands tours. Donc c'est des choix particuliers à faire. Il faudra qu'il les fasse. Donc à voir, mais cette Vuelta, il ne l'a jamais gagnée. Et forcément, un coureur qui veut tout gagner et battre tes records, il faudra qu'il s'y penche de toute façon.
C'est ça, parce qu'il y a deux choses, Arnaud. Il y a ces championnats du monde au Rwanda qui seront les plus difficiles de l'histoire, les plus montagneux en tout cas. Donc ça convient évidemment à Tadej Pogacar qui pourrait faire le doublé. Mais il y a cette Vuelta aussi qu'il veut aller chercher. Peut-être aussi pour s'en débarrasser, d'avoir gagné comme ça les trois grands tours assez rapidement. Est-ce qu'il peut faire les deux?
Après Merckx, je ne veux pas raconter de bêtises, mais il me semble qu'Eddy Merckx l'avait gagné une seule fois en 1973. Je ne suis pas sûr que Merckx ait énormément participé à la Vuelta. Faudrait que je vérifie, parce que là, j'ai pas, voilà, il a une participation, une victoire, Eddy Merckx.
C'était un calendrier particulier.
Oui, c'était un calendrier particulier. Non, ce que je veux dire, c'est que je crois quand même, et je suis d'accord avec Pierre, que franchement, l'arc-en-ciel, aujourd'hui, ça doit être la priorité. Moi, enfin, en tout cas, moi, si je m'appelle Tadej Pogacar, c'est plus une priorité pour moi d'éventuellement le gagner 3 voire 4 fois d'affilée que d'aller faire la Vuelta. Après, si les deux objectifs sont compatibles, pourquoi pas? C'est pas, je sais pas, moi, je suis pas dans la tête des préparateurs physiques et des médecins du AE, mais si c'est compatible d'aller faire la Vuelta et les mondiaux quelques semaines après, pourquoi pas?
Est-ce que tu penses que c'est compatible?
Tu me diras, regarde, j'allais prendre l'exemple de Van der Poel, mais il est pas bon parce que Van der Poel.
Non, aujourd'hui, un coureur qui sort du tour. S'il va à la Vuelta, c'est difficile d'être compétitif, en sachant que lui, il n'y va pas pour faire la Vuelta et préparer le championnat du monde. S'il y va, c'est pour gagner la Vuelta. Donc, c'est encore beaucoup de sacrifices, beaucoup de préparation. Et avec un championnat du monde à Kigali, où il faudra s'acclimater aussi, non pas au décalage horaire, mais surtout au climat, etc., ça me semble très compliqué de vouloir faire les deux l'an prochain. Maintenant, on parle là de Tadej Pogacar, hein, qui est un phénomène.
Oui, alors juste pour essayer de comparer ce qui est comparable, Evenepoel a bien fait le Tour de France cette année en terminant 3e et en terminant quand même bien dans le rouge, bien dans le dur, et est champion olympique 2 semaines plus tard.
Oui, mais il ne fait pas la Vuelta derrière.
Ce que je veux dire, c'est de l'enchaînement entre un grand tour.
Oui, alors je pense qu'il peut faire Vuelta et championnat du monde.
Mais c'est la question.
Mais dans ce cas,
tu fais pas
le tour avant. Et là, pas faire le Tour de France. Ouais,
mais
c'est ça. Alors nous,
bien sûr. Vous avez raison.
C'est pas un tour, une course d'un jour. C'est deux tours, une course d'un jour. C'est là la différence. C'est que c'est deux grands tours. Tour de France, Vuelta, puis championnat du monde. Et là, ça laisse quand même beaucoup de traces, même si c'est Pogacar. Pour moi, ça me semble très compliqué de vouloir faire les trois, quoi.
Puis on imagine aussi, alors il l'a gagné 4 fois d'affilée, mais que le Tour de Lombardie, il aurait envie de le gagner une 5e fois et d'effacer des tablettes photocopies et de rentrer seul dans l'histoire. J'imagine que ça aussi, pour Tadej Pogacar, c'est un objectif encore qui sera important en 2025.
Oui, non, mais c'est bien possible. Après, j'ai envie de dire, de toute manière, le Tour de Lombardie, quand même, tous les ans, on a quand même des coureurs qui arrivent en fin de cycle. Lui, manifestement, c'est jamais le cas. Donc, j'ai presque envie de dire pour lui que le Tour de Lombardie, c'est la plus grosse formalité de l'année. Hein. Non, mais c'est vrai.
Ouais. C'est son dessert préféré.
C'est un truc de dingue, quoi. Il était quand même coté l'autre jour à 1,20. Je sais pas si on se rend compte. 1,20 sur une course de vélo. S'ils avaient pu le mettre en négatif, ils l'auraient fait, quoi. Enfin, c'est juste incroyable.
ça fait rire, Jérôme Pinault, mais évidemment 1,20 pour un monument en plus, vraiment le 0,20 en plus, c'est juste en cas de chute, hein, et en cas d'attentat,
voilà, ouais.
Hein, si jamais c'était important. Donc voilà ce qu'on pouvait dire sur Tadej Pogacar, sur la saison qui l'attend en 2025. Il y a encore plein de choses qui pourraient faire vibrer le Slovène. Nous, ce qu'on
vous
veut,
vous avez dit quand même que Eddy Merckx avait gagné 36
non, on l'a pas dit, mais
on l'a pas dit, on va le dire
Arnaud,
parce qu'on a un petit stagiaire Romain que je remercie, qui nous a fait des petites statistiques fort sympathiques. pronostics et qui donc justement me faisait remarquer que Merckx avait gagné 36 fois en 70 et en 71. Donc on est quand même encore loin là avec ce qu'a fait Pogacar en 2024 qui lui a gagné. Ah oui, non, mais on est encore loin. Et puis alors Merckx a quand même 4 saisons à plus de 30 victoires, hein. Je sais pas si vous vous rendez compte, 36 en 70, 36 en 71, 33 en 72, 34 en 73. Voilà ce que c'est. Non mais pour comparer, parce que tout le monde passe son temps à comparer Merckx, Pogacar. Merckx qui dit que Pogacar est devenu plus fort. Il y a aussi cette réalité là, c'est que bah, certes la saison de Pogacar elle est monstrueuse, certes ce ne sont pas les mêmes époques, certes ça n'est pas la même concurrence, mais on est encore loin quand même de ce qui se faisait à l'époque.
Il a pas assez couru.
Mais il a pas les mêmes.
Il a pas assez couru, ouais, c'est ça. Ouais.
Il lui manque 25 victoires, c'est un record égalé au 21e siècle avec le record d'Alessandro Petacchi, c'était en 2005. Il aurait dû en avoir une 26, on va pas se mentir, si les Trevalisiné n'avaient pas été annulés pour cause d'intempéries, Tadej Pogacar était largement favori de cette course. Mais voilà, c'est dire la saison dantesque du Slovène. Tiens, on n'a pas eu ton avis tout à l'heure, Arnaud. Justement, on parlait de la maturité physique qui arrive là pour Tadej Pogacar entre 25 et 30 ans. Il a seulement 26 ans. Maintenant, tu le disais avec Eddy Merckx, le plus difficile, ça sera même de s'installer dans le temps et de reconduire ce genre de saison.
Après, souvent on disait il y a quelques années que la maturité, notamment ça nous arrangeait bien, donc quand Pinot et Bardet étaient arrivés aux alentours des 28 ans, on avait dit ah oui, mais c'est la maturité exceptionnelle entre 28 et 32 ans. Il y a une petite différence quand même pour moi, c'est que Pogacar, il a commencé extrêmement jeune, il a commencé à gagner extrêmement jeune. Donc je suis pas convaincu que ce gars-là, et puis lui il le dit, il le répète, il semble dire que sa carrière elle durera une dizaine d'années. Il se voit pas continuer beaucoup plus, enfin, en tout cas il s'imagine pas être aussi performant, aussi longtemps. Donc moi je pense quand même qu'il est peut-être pas au sommet physiquement, j'en sais rien, mais moi je trouve quand même qu'il a un summum là, si tu veux faire mieux, c'est quand même un truc de dingue. Je pense qu'il a encore 2-3 saisons comme ça où il peut voilà surfer sur tout ça, mais je le vois pas moi continuer 10 ans comme ça, enfin ça me paraît pas possible, et pourtant il a 26 ans, c'est ça,
26 ans, oui.
Donc je le vois pas continuer comme ça jusqu'à ses 35 ans.
Il a explosé à 19 ans, Tadej Pogacar, sur la Vuelta 2019, voilà, c'est ça, Vuelta 2019, où il fait 3e, il remporte 3 étapes, et après il y a eu ce Tour de France 2020, on s'en souvient tous, où il va chercher ce dernier contre-la-montre et cette première victoire sur le Tour. Et ben voilà ce qu'on pouvait dire sur Tadej Pogacar, qui nous aura occupé une grande partie de l'année quand même, ce Slovène. On espère que ce sera la même chose en 2025. On s'y attend de parler encore de Tadej Pogacar. Après, oui, on n'a pas notre plaisir.
Bah, on se donne rendez-vous là pour les Flandres. Enfin, non, on va continuer Grand Plateau déjà, hein, tout l'hiver.
Bien sûr,
faut quand même le savoir. Et on va se donner rendez-vous pour les bonnes classiques là de printemps, là pour la rentrée du vélo, Milan-San Remo, le Tour des Flandres, Paris-Roubaix, ça va être exceptionnel.
Et
les Strade évidemment. Mais là, on reparlera de Van der Poel, on reparlera de Van Aert, on reparlera d'Evenepoel. Ouais, ça va être génial. Ça va être extraordinaire.
Il y a tellement de suspense pour cette saison.
Et d'ici là, on va bientôt parler du parcours du Tour de France, hein, parce que le parcours du Tour de France 2025 va être dévoilé le 29 octobre. Et ben nous, on s'engage à vous en parler. On est quoi là? On est le 14?
Bah, c'est dans 2 semaines tout pile.
Ouais.
15 jours.
On s'engage à vous en parler le 28, pas le 21, faut pas pousser. Pas lundi prochain, lundi d'après.
Voilà, ça c'est le teasing que j'aime d'Arnaud Souk. Merci Arnaud d'avoir été avec nous, merci à Pierre Cotchet également. Et Jérôme Pinot, profite de tes petites vacances là, du soleil de Marrakech. Jérôme, et on se retrouve très vite avec toi dans Grand Plateau. Le retour la semaine prochaine de Christophe Cessieux. N'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée pour continuer à nous écouter. Ça ne coûte rien et ça nous aide énormément. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Salut à tous.